Ici l'ombre, la radio de Concertina.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Isabelle Marin, philosophe et médecin, qui a participé hier à l'atelier Vieillir, entrer en silence avec Annie Kensey, démographe. Bonjour Isabelle Marin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et médecin. Vous avez travaillé 30 ans en équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Équipe mobile, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, que vous avez accompagné et soutenu des personnes malades, leurs familles et leurs proches, ainsi que les soignants.
Oui, en équipe mobile, en fait, on travaille pour l'ensemble de l'hôpital et l'ensemble des structures de soins. On se promène de service en service à la demande habituellement des soignants. Ça peut être aussi à la demande des familles. Et puis ça peut être pas à la demande du tout, on passe dans les services pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes. Et on s'aperçoit que, alors qu'il n'y a aucune demande, qu'apparemment personne n'est confronté à la mort très, très, très régulièrement, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai du tout et que les services en fait sont remplis de gens malades qui sont confrontés à ces problèmes-là.
Alors dans l'atelier d'hier, Annie Kensey parlait des personnes âgées en prison, puis vous avez parlé à votre tour des EHPAD, et les parallèles entre EHPAD et prison étaient frappants. Alors l'EHPAD, est-ce que c'est un lieu d'enfermement? Comment vous pouvez nous expliquer cela?
Oui, alors en équipe mobile, on avait un projet concomitamment avec le réseau de soins palliatifs de local de travailler dans les EHPAD. Donc nous, on travaillait dans les 15 EHPAD de notre territoire, donc en Seine-Saint-Denis, autour de Saint-Denis, donc un territoire très, très pauvre. Et on allait très régulièrement dans ces EHPAD-là, soit à la demande parce qu'il y avait un malade qui souffrait ou qui avait quelques symptômes, mais on y allait aussi tous les mois pour discuter un peu des questions des soignants et des problèmes de leurs résidents. C'est comme ça que j'ai rencontré les EHPAD du territoire. Alors, les EHPAD, d'abord dans ces 15 EHPAD, il n'y en a que 3 qui sont en centre-ville. Toutes les autres sont dans des lieux très isolés, c'est-à-dire il y en avait une qui était près d'une déchetterie, il y en avait une autre qui était sur un nœud autoroutier. Il y en avait 3 qui étaient sur des nationales. Plusieurs étaient dans des endroits très, très périphériques des petites villes où c'était. Enfin, de toute façon, elles n'étaient pas accessibles à pied au centre-ville. Enfin, elles étaient loin déjà géographiquement. Pour rentrer dans les EHPAD, il fallait montrer patte blanche. Il y avait des sas avec des interphones. Donc, on ne rentrait pas comme ça. Tout était fermé. Et évidemment, fermé pour rentrer, mais fermé pour sortir, puisque les résidents donc, ne pouvaient pas sortir non plus sans passer par ce sas. Et j'ai appris que les résidents étaient aussi enfermés dans leur chambre. Ils étaient enfermés dans leur chambre en particulier le soir parce que il y avait d'autres patients d'autres résidents qui déambulaient et qui pouvaient les déranger. Ils étaient enfermés pour leur bien, quoi. Mais ils étaient néanmoins enfermés. Après, j'ai appris que dans certaines EHPAD, il y a des portes à code, des choses un peu plus sophistiquées. Chez nous, c'était des clés, hein. Et les soignants fermaient à clé les chambres des patients pour qu'ils ne soient pas dérangés, voilà. Mais ils ne pouvaient pas sortir.
Enfermés de nuit, mais enfermés de jour aussi parfois?
Certains étaient enfermés de jour. Alors pendant le Covid, n'en parlons pas. Mais sinon, certains sont enfermés de jour aussi. En particulier, tous ceux qui ne peuvent pas aller dans les espaces communs, on les enferme pour qu'ils ne soient pas dérangés. Donc voilà. Et tout le monde trouve ça normal. C'était ça aussi qui m'a le plus frappée. C'est que ça choquait personne.
Et vous avez raconté l'histoire d'une dame qui avait voulu attirer l'attention sur cette question et son histoire est tragique.
Alors, c'était pendant le Covid. Et donc, alors là, tout le monde était enfermé tout le temps pour des raisons soi-disant de sécurité. Cette femme, on pense que c'est pour pouvoir attirer l'attention qu'elle a mis le feu dans sa chambre. Peut-être pas, peut-être que c'est par inadvertance, j'en sais rien. En tout cas, elle est morte brûlée parce que le temps qu'on trouve la clé, qu'on ouvre, on s'aperçoit qu'il y a des fumées, ils ont tout de suite fermé pour pas mettre le feu ailleurs. Et donc, quand ils sont réussi à rentrer dans la chambre, elle est morte. Elle était morte. Mais ça a pas changé. C'est-à-dire que nous, on est arrivés le mois d'après pour faire notre visite habituelle. Eh bien, les gens étaient toujours enfermés.
On parle de la liberté d'aller et venir. Elle est bafouée dans ce contexte.
Alors, oui, elle est bafouée. Alors, d'abord, dans les EHPAD, vous avez des services vraiment fermés, qui sont les services pour les déments. Alors, ceux-là sont des services vraiment fermés, où les résidents ne peuvent pas sortir seuls du tout, et il faut toujours qu'ils soient accompagnés, etc. Et puis, vous avez des services qui sont dits non fermés, où ils peuvent éventuellement, quand leur chambre s'est ouverte, ils peuvent aller dans les espaces communs, ils peuvent aller dans des jardins quand il y en a, mais ils ne peuvent pas sortir dehors comme ils veulent. Moi, j'avais aussi un patient qui était un ancien SDF et qui avait été logé en EHPAD, mais qui voulait faire la manche pour pouvoir avoir de quoi cantiner, enfin de quoi boire essentiellement, boire et fumer. Et c'était un problème parce qu'à chaque fois, il demandait à sortir et il y avait toujours une bagarre à l'entrée pour qu'il puisse sortir, aller faire la manche au métro de Paris, revenir avec ses sous et ses litrons. Donc ça, en fait, il a fallu qu'on bataille beaucoup pour qu'il ne soit pas expulsé parce que c'est impossible quoi, de se sortir comme ça.
Et vous avez eu des mots très forts, vous avez parlé d'univers concentrationnaire hier.
Oui, mais ça, c'est pratiquement tout le système de la santé qui est que de cet univers-là. C'est-à-dire qu'on concentre des gens dans des lieux en fonction d'une particularité. Alors là, c'est parce qu'ils sont vieux. Il y a des centres parce que c'est des handicapés. Alors ça s'appelle les MAS. Il y a des centres pour les précaires. Alors ça peut être les CHU, les centres d'hébergement d'urgence, mais ça peut être aussi les LHSS qui sont pour les précaires un peu malades. Les LAM pour les précaires très malades. Après, vous avez les femmes qui sont pour les handicapés mentaux et qui sont des foyers, qui sont donc des gens qui sont un peu plus mobiles que dans les masses. Enfin, à chaque fois, on concentre en fonction d'une particularité qui devient de plus en plus rétrécie à la fin. C'est-à-dire que vous avez des masses spécifiques. Vous avez des masses pour les maladies de Charcot, vous avez des masses pour les CEP. Et donc, à chaque fois, on concentre les gens, on les met en dehors de la société, on les met dans un espace d'inutilité totale, soi-disant pour leur bien, mais en fait, pas tellement en fonction de leurs besoins qu'en fonction du type de prise en charge. C'est-à-dire que c'est plutôt le métier du soignant qui définit comment on va concentrer les personnes. Mais pareil dans l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, des services de spécialité parce qu'il y a des spécialistes, mais... quand on est malade, on est rarement malade d'un seul organe. On est souvent, on appelle ça la multipathologie, mais un organe agit sur les autres. Enfin, il y a forcément toujours un ensemble de choses, une médecine un peu globale. Mais par contre, on va ségréguer les gens en fonction de la spécialité du médecin qui doit les prendre en charge.
Donc, rassembler ces personnes handicapées, personnes âgées. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça, tous, toutes au même endroit, sans que ce soit un choix, donc de manière subie. Donc, on ne fait pas société. C'était ce dont on parlait hier autour de ces particularités. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes âgées, vous allez finir votre vie en ne voyant que des personnes âgées. En plus, dans les EHPAD, vous ne voyez pratiquement que des femmes, parce que les personnes âgées, le plus souvent, sont des femmes. Les hommes meurent plus tôt. Les soignants sont presque tous des femmes, surtout dans les EHPAD. Vous avez quelquefois des médecins hommes qui viennent, mais de moins en moins, parce que les médecins, c'est aussi un métier qui se féminise. Donc, en fait, c'est pas des vraies sociétés. C'est des groupes. Et c'est des groupes... c'est pour ça que c'est concentrationnaire. C'est que ça, on peut pas trop faire société. Faire société, c'est aussi être en mixité, en pluralité, avec des gens qui peuvent échanger sur différentes choses. Là, d'abord, il y a très peu d'échanges entre résidents, souvent parce que les résidents qui arrivent en EHPAD sont très, très malades et très dégradés. Beaucoup sont quand même déments aussi, ou un peu déments. Et donc, il y a un échange qu'en sens unique entre la personne et les soignants, quand il y en a. Mais pas, ça ne fait pas société. Ça ne fait pas société. Il n'y a pas de lien social ou très peu entre les résidents. Et alors ça, parce que moi, je travaille maintenant en Bourgogne et je vais dans des EHPAD de Bourgogne où les choses sont un peu différentes. Parce que là, il me semble qu'il y a un peu plus de lien social. Ne serait-ce parce que les gens se connaissaient d'avant. C'était les gens du même village qui vont dans la même EHPAD. Et donc, le lien social dure un peu, persiste un peu entre générations. Mais dans les EHPAD de 93, ce n'est pas ça. Et c'est vraiment, en fait, un isolement à plusieurs et non pas une société.
Alors, on pourrait imaginer que pourrait se développer une solidarité entre toutes ces femmes ou une sororité étant donné... Mais peut-être que c'est une histoire de génération aussi. En tout cas, ça ne se passe pas comme ça.
D'abord, je pense que la plupart des gens qui arrivent en EHPAD ne le veulent pas. Ils veulent rester chez eux et ils veulent pas forcément de vie collective. Donc, ils sont mis en vie collective de façon un peu obligée. Non, il n'y a aucune solidarité. Il n'y a aucune solidarité et je pense que c'est le dispositif qui crée ça. Justement, le fait de les mettre pour leur bien dans ces lieux fermés, isolés, il peut y avoir de la compétition. C'est-à-dire, pourquoi on s'occupe de tel et pas de moi? Alors ça, nous, on le voit beaucoup en soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui disent « Ah ben, ça serait bien que je sois en train de mourir parce qu'au moins, on s'occuperait de moi, par exemple. » Quand ils voient qu'on s'occupe un peu plus d'un résident qui devient, dont l'état devient très critique. Mais peut-être comme dans l'univers concentrationnaire, où il y a eu très peu de solidarité. Enfin, les textes qu'on a de Primo Levi ou d'Anthelme nous parlent un peu de temps en temps de solidarité. Mais ce qu'on sait, c'est quand même qu'il y en a eu peu, qu'il y a eu quand même beaucoup de compétitions, beaucoup de bagarres, et que les gens mouraient seuls quand même. Et c'est la même chose. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, quand quelqu'un meurt en EHPAD, le normal, c'est qu'on n'en parle absolument pas. Ni entre soignants, ni aux autres résidents. Et c'est tout un travail, justement, des équipes mobiles de dire, eh bien, si c'est les résidents, ils ont vu leurs voisins, ils ont peut-être mangé ensemble, ils ont peut-être besoin et envie de savoir ce qui est devenu leur voisin qui est parti à l'hôpital. Eh bien, c'est très compliqué d'arriver à ce que les équipes en parlent. Alors, je travaillais après dans un LAM, mais c'est les mêmes problématiques dans tous ces lieux de concentration qui est un lieu d'accueil pour très grand, précaire, très malade. Et à plusieurs reprises, il y avait un des résidents qui est parti à l'hôpital et qui est mort. Et moi, j'insistais pour qu'on en parle aux autres. Et tout le monde s'en patouillait les pieds en se disant « mais on ne peut pas le faire ». Alors, une fois, ils l'ont fait. Pendant les repas, ils se sont aperçus que c'était affreux, que les gens, ça a mis... Il y a eu un grand silence. Enfin, les gens étaient tristes et que c'était épouvantable. C'est un peu normal d'être triste quand quelqu'un meurt. Enfin... Et donc, après, ils ont fini par construire un espèce de petit rite. Mais tout est très artificiel, quoi. Dans un village, quand quelqu'un meurt, on doit le savoir. Normalement, c'est affiché, enfin, c'est public. Et bien, dans une EHPAD, il faut beaucoup réfléchir pour que ça soit public. Alors, il y a des EHPAD qui mettent la photo du résident avec une petite chandelle, des choses comme ça. Il y a tout un travail qui est fait, mais c'est très artificiel. Parce que le système fait qu'au contraire, normalement, le patient, il part à l'hôpital, bon, et puis on vide la chambre, et puis on met quelqu'un d'autre, et ni vu ni connu, tout est fini.
Donc là, la mort en EHPAD est tabou, alors même que c'est un endroit où beaucoup de personnes sont âgées et malades, et donc risquent de mourir.
Oui, mais ça, il ne faut pas en parler. Hein. On dit toujours que l'EHPAD, c'est un lieu de vie. Alors ça, c'est une grosse tasturferie, parce que d'abord, les gens sont souvent trop fatigués, malades et abîmés pour être vraiment dans un lieu de vie. Et puis toujours, ce qui est privilégié, c'est le soin par rapport à la vie. S'il y a un choix entre un animateur et une infirmière, on choisira l'infirmière. Enfin, on privilégiera toujours le soin. Enfin, et ce côté-là. Et la sécurité par rapport... C'est ce qu'on a vu pour le Covid, par exemple. On les a tous enfermés, donc ils sont morts après d'isolement et de tristesse pour privilégier le soin et l'absence de maladie. Enfin, donc...
Est-ce qu'elles choisissent d'aller en EHPAD? Est-ce qu'elles choisissent dans quel EHPAD? Est-ce qu'elles choisissent leur lieu de vie?
Peut-être certains choisissent, mais la plupart, moi, ce que je vois, c'est à l'hôpital, quand les patients sont amenés par les familles ou par les pompiers ou comme ça. Et après, on se dit, le domicile n'est plus possible, il faut choisir l'EHPAD, les gens ne veulent pas. Alors, ils ne veulent pas pour plein de raisons, y compris parce que c'est payant. Et puis, ils sont bien obligés. Donc, alors, les familles choisissent d'habitude l'EHPAD. C'est le principe aux familles de choisir l'EHPAD. Chez nous, c'est beaucoup pour des raisons financières, hein, et puis des raisons de place. Enfin, non, on choisit pas grand-chose. Hein. On me parle de gens qui ont décidé d'aller en EHPAD. Moi, j'en ai pas vu dans ma carrière à Saint-Denis de gens qui choisissent d'aller en EHPAD. À chaque fois, on les oblige.
Alors parlons de l'isolement et de l'inutilité. Comment cet isolement et cette inutilité sont-ils vécus par ces résidents, ces résidentes?
Alors c'est là que j'avais parlé du concept de désolation, parce que l'isolement, on peut être isolé et pourtant en lien avec les autres. On peut être isolé et créatif. L'isolement n'est pas forcément en soi quelque chose de forcément négatif. Mais ce qu'on crée dans ces lieux de concentration, c'est ce qu'appelle Arendt de la désolation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu public. On est privé de tout espace public. Les personnes âgées en EHPAD ne participe pas à la vie politique, ne participe pas à la vie associative, ne participe pas même à la vie de l'établissement. Il y a soi-disant des conseils d'établissement qui devraient avoir lieu, mais qui sont très... ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que l'établissement, il suit des règles qui sont des règles par décret, et puis des règlements, et puis... Et il ne tient absolument pas compte de la vie des gens. Là, Lazarus racontait l'histoire des pâtisseries où, en effet, il y avait des ateliers de pâtisserie avant dans certaines EHPAD qui ont été supprimés parce que maintenant, on n'a plus le droit de prendre des œufs frais, il faut prendre des œufs en poudre. Et puis surtout, on n'a pas le droit d'approcher le four et puis on n'a pas le droit de trouver des couteaux aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on met tellement à l'abri les gens qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et normalement, ils ne doivent pas participer à la vie... quotidienne de l'établissement, faire des pluches, enfin faire ce qu'ils faisaient chez eux et qui est souvent, enfin pour les personnes âgées, souvent c'est ça leur plaisir, hein, c'est de faire la cuisine, de faire d'éplucher la soupe, enfin moi ils me racontent ça les patients. Quand ils arrivent en EHPAD, c'est terminé.
Alors en revanche, on leur propose des activités.
Qui sont des activités souvent, alors certaines sont un peu créatives peut-être, je sais pas, mais très infantilisantes quoi. Un peu des gommettes, quoi. Des gommettes, des paniers, des jeux, voilà. Et c'est quand même très infantilisant. Et ce n'est pas des activités qui seront utiles soit à la vie de l'établissement, soit aux autres résidents, soit à leur famille. Enfin, y a plus aucune utilité. Quand on va voir son proche, ceux qui vont voir, hein, parce que chez nous, dans Seine-Saint-Denis, il y en a 80% qui n'ont pas de visite. Mais ceux qui ont des visites, on fait des visites pour la personne âgée. On ne fait pas des visites pour soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la personne âgée parce qu'elle va nous raconter des choses. On va voir la personne âgée parce qu'il ne faut pas qu'elle soit toute seule. C'est-à-dire que tout est toujours tourné comme si la personne âgée était devenue un objet de soin, un objet d'attention, éventuellement un objet d'amour quelquefois, mais un objet. Et jamais un sujet. C'est-à-dire que c'est jamais la personne âgée qui va vous apporter quelque chose. Alors que... quand même, on sait tous très bien que les grands-mères nous ont apporté énormément. Mais dès qu'elles sont en EHPAD, c'est un peu terminé. Hein. C'est dans l'autre sens que ça doit fonctionner. Heureusement, ce n'est pas, évidemment pas toujours le cas. Bien sûr qu'on peut prendre plaisir de temps en temps. Mais enfin, objectivement, rentrer dans une EHPAD, ça tord les tripes de tout le monde. Quoi.
Ici l'ombre, la radio de Concertina.
Alors justement, pourquoi ces familles mettent ces personnes âgées dans les EHPAD ? Hier, on a parlé de la peur que les personnes âgées tombent, qu'il n'y ait personne pour les ramasser, qu'elles se blessent, qu'elles ne prennent pas leur traitement. Enfin, toutes ces questions-là, est-ce que dans l'EHPAD, les familles se protègent de ces difficultés possibles ?
Alors, c'est les familles et c'est les soignants. Parce que beaucoup de soignants, de médecins généralistes, d'infirmières à domicile, et surtout des hôpitaux à domicile, l'hôpital à domicile, par exemple, très vite, dès qu'il y a le moindre risque, ils disent il faut l'hospitaliser. Parce que, en fait, on n'a pas envie d'être coupable de ne pas avoir prêté assez d'attention. On ne veut pas non plus, l'infirmière ne veut pas se retrouver le matin à rentrer dans la maison et à s'apercevoir que la personne est morte, ou qu'elle est par terre, ou des choses comme ça. En EHPAD, on tombe aussi. Je ne suis pas sûre qu'on tombe moins en EHPAD qu'à la maison. Il y a énormément de chutes en EHPAD. On s'est aperçu même que, par exemple, tout ce qui était la contention, parce qu'il y avait beaucoup de contention, augmentait la gravité des chutes. En fait, ça ne diminuait pas les chutes, ça augmentait la gravité des chutes. Donc maintenant, on fait un peu moins de contention. C'est-à-dire qu'on attache moins les gens. On essaie de mettre les lits un peu bas, mais les gens tombent quand même. Et on ne les ramasse pas plus vite qu'à la maison. Hein.
Oui. On attache. On attache les gens.
Maintenant, on n'attache plus. Mais en fait, on attache encore. Hein. On les attache dans les fauteuils parce que s'ils se lèvent, ils vont tomber. Alors, résultat, quelquefois, dans les EHPAD, on voit arriver des gens qui marchent avec les fauteuils accrochés au derrière, là. Et alors, c'est encore pire. Et puis, on attache. Par exemple, dès qu'on met une perfusion, comme les gens veulent l'arracher, on les attache. Enfin, alors, maintenant, il y a des tas de règlements pour empêcher ça. Mais dans la pratique, on le fait quand même.
Oui, d'autant plus que comme il n'y a souvent pas assez de personnel, le personnel n'arrive peut-être pas. Est-ce que c'est une volonté ? Est-ce que c'est aussi une solution pratique pour limiter les risques, hein, justement, parce qu'il n'y a pas assez de monde ?
Mais c'est ça. Alors, on met les barrières en se disant, comme ça, ils ne vont pas tomber. Mais les gens qui veulent sortir du lit, ils escaladent les barrières et tombent de plus haut. Donc ça, nous, c'était notre travail d'essayer justement d'enlever les barrières, de mettre les lits plus bas, de mettre des matelas par terre pour que quand ils tombent sur le matelas ou des choses comme ça, en EHPAD. C'est beaucoup plus facile à la maison. d'empêcher d'attacher, parce qu'à la maison, personne ne va attacher. Mais il y a les risques. Et donc, les familles se disent qu'ils seront mieux dans un lieu où il y aura quelqu'un tout le temps. Après, il y a toujours l'espèce de fantasme qu'il faut qu'il y ait quelqu'un tout le temps. Or, d'abord, dans une EHPAD, il n'y a pas quelqu'un tout le temps, parce que la nuit, il n'y a pas grand monde, et puis ils ne sont pas tout le temps dans la chambre, et puis ils n'écoutent pas tout le temps les gens, enfin, etc. Et les gens sont quelquefois beaucoup plus seuls en EHPAD qu'à la maison, par exemple.
C'est ce que j'allais dire. Il y a cette idée peut-être que ces personnes âgées, c'est mieux qu'elles soient en collectif, sauf que, d'après ce que vous nous expliquez, ce collectif est subi et finalement crée de l'isolement plutôt que du lien.
La plupart du temps, oui. C'est ça. Et quand vous êtes à la maison, que vous avez quelqu'un qui vient pour vous faire la toilette ou quelqu'un qui vient pour vous faire le ménage, vous avez un lien avec cette personne. Quand vous êtes en EHPAD et qu'il y a quelqu'un qui passe le balai tout autour, il n'y a pas forcément de lien avec toutes les gens qui sont là. Parce que y en a, pour la fille qui fait le ménage, peut-être qu'elle va être attachée à l'une des résidents, mais pas forcément à toutes. Elle ne va pas forcément parler à tout le monde. Enfin... Et donc, non, l'isolement, il peut être au pire en EHPAD. Enfin, et la solitude peut être pire en EHPAD. La solitude, quand on est en collectif, est pire que quand on est seul. Enfin, c'est toute la différence entre l'isolement et la désolation, quoi. Et vraiment, l'EHPAD, c'est le lieu de désolation, comme le lieu concentrationnaire. Enfin, et Arendt le dit bien que c'est dans la vieillesse que ça commence. Cette impression d'être sorti de la société humaine, mis à part, mis dans un état d'inutilité totale. Et ce qui est pire en EHPAD par rapport au système concentrationnaire, c'est qu'en EHPAD, c'est pour le bien de l'autre. Et donc, il n'y a même pas d'ennemi possible. Il n'y a même pas de combat. Enfin, on est objectivé et chosifié pour son bien. Alors que c'est peut-être le bien de son corps, mais peut-être pas de sa personne, quoi.
Anna Arendt, c'est dans l'univers concentrationnaire qu'elle a parlé de ça
Oui, il y a plusieurs endroits où elle parle du concept de solation. Dans l'univers concentrationnaire, dans, je crois, Crise de la culture aussi, je crois qu'elle en parle à un moment.
Du point de vue financier, qu'est-ce qui est plus cher ? Mettre son père, sa mère dans une EHPAD ou alors payer des assistants, des assistantes ? Surtout des assistantes, ça, on a bien vu que les femmes dans le soin sont majoritaires, à la maison. Qu'est-ce qui est le plus cher, finalement ?
C'est probablement plus cher à la maison. Alors, les EHPAD sont chers. Après, ça dépend des lieux, hein, mais les EHPAD, c'est quand même cher. C'est quand même c'est de 2 000 à 3 000 par mois. À la maison, si le système fonctionnait bien, ça ne devrait pas être cher. Mais, c'est-à-dire que, par exemple, les SIAD, les services infirmiers à domicile, devrait s'occuper normalement à la fois de tout ce qui est soins au corps, toilettes, change, et également faire à manger. Et ils ont aussi des auxiliaires de vie qui peuvent faire les courses, etc. Et donc ça, normalement, c'est gratuit. Mais ils sont absolument débordés. On a des délais de 6 mois d'attente avant de rentrer dans un SIAD. Et ça ne donne pas forcément tous les passages. C'est-à-dire que je me rappelle une patiente qui était à la maison. Le SIAD venait pour la toilette, mais 5 jours par semaine, c'est-à-dire pas le week-end et pas le soir. Ils n'assuraient pas le coucher, donc il fallait que la famille paye quelqu'un pour le coucher et pour le week-end, etc., etc. Donc, pour certains, moi je me rappelle, certains malades à la domicile, on était arrivé à faire 4 passages par jour, pratiquement entièrement pris en charge. Mais habituellement, ce n'est pas ça. Et dès que la famille peut payer, dès que les gens ne sont pas seuls et qu'il y a une famille qui peut payer, c'est eux qui payent. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes ne veulent pas sortir de leur milieu usuel. Ce que je vois aussi, c'est que les personnes qu'on sort de leur milieu usuel, dans à peu près 50% des cas, ils meurent dans les 6 mois quand ils sont en maison de retraite. Donc, je ne sais pas s'ils se sentent le mieux ou pas, mais en tout cas, quand on les met en maison de retraite, ils meurent. Je crois aussi que les gens à la maison peuvent se sentir aussi très isolés et très seuls. Hein. Je pense qu'on est dans un mode de vie global qui est quand même pas idéal. Où on a de plus en plus de gens qui habitent seuls, mais qui en souffrent. Pas seulement chez les vieux. Et ce que je vois, moi, chez les jeunes qui font des colocations, c'est que même quand ils ont les moyens de ne plus faire de colocation, souvent, ils restent en colocation parce qu'ils sont contents de vivre à plusieurs. Et notre modèle, qui s'est quand même créé relativement récemment, hein, de foyer très, très réduit, de plus en plus réduit, de monoparental, de célibataire ou de gens qui vivent seuls, c'est assez récent quand même. Enfin, moi, j'ai aussi l'expérience à Saint-Denis. On a beaucoup de gens qui viennent d'autres milieux culturels. Et je me rappelle une jeune fille qui s'occupait de mes enfants. Et elle logeait dans un studio. Et elle était paniquée. C'était la première fois qu'elle dormait seule. Et elle ne supportait pas, en fait. Elle ne trouvait pas du tout ça un luxe d'avoir un studio à elle toute seule. Pas du tout. Elle trouvait que c'était horrible. Elle avait toujours dormi avec ses frères, ses sœurs, des gens. Et ça la rassurait. Et là, elle n'était pas bien du tout. Donc, c'est très culturel, quand même, cette idée-là. Maintenant, dans les chambres d'hôpital, on fait que des chambres seules. Et pour le coup, il y avait de la solidarité dans les chambres à deux. C'est-à-dire qu'on appelait, quelqu'un ne pouvait pas appeler, prendre la sonnette, c'était le voisin. Enfin, donc, c'est compliqué, hein. On est dans une culture où ça serait bien d'être en chambre seule, en maison seule, mais en même temps, tout le monde en souffre.
Et j'ai lu aussi qu'il pourrait y avoir des contrats de séjour, c'est-à-dire des contrats d'hébergement temporaire dans des EHPAD, mais qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Donc, que les personnes ne peuvent pas vraiment faire des tests et éventuellement s'habituer à un lieu, parce qu'administrativement, ça ne suit pas, et que les personnes qui se retrouvent dans les EHPAD, c'est souvent des situations d'urgence. Il faut aller très vite, saisir une place dès qu'elle se libère. Et donc, le passage est très brutal du domicile à l'EHPAD.
Ça, je ne sais pas, parce que moi, je sais que, surtout après le Covid, il y a pas mal de places qui se sont libérées. De toute façon, il y a pas mal de places qui se sont libérées parce que c'est très rentable, les EHPAD. C'est un système de capitalistique extrêmement rentable. Donc, il y a pas mal de places et ce n'est pas si compliqué que ça d'avoir des places dans les EHPAD. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir le financement de ces places. Parce que la plupart des gens, en tout cas chez nous, n'ont pas les moyens de payer l'EHPAD. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un dossier au Conseil général, puisque c'est le Conseil général qui paye quand la personne ne peut pas payer. Et c'est ça qui prend énormément de temps. Mais sinon, la place elle-même, non, elle est assez rapide. Les séjours dits de répit, comme ça, nous, on en avait. Le problème, c'est que vous avez quelqu'un qui est autonome chez lui, qui est continent, qui va aux toilettes tout seul. Il arrive en EHPAD, en séjour de répit, on va lui mettre des couches, il va devenir incontinent. Il va rentrer chez lui incontinent, etc., etc. Alors, bien sûr, vous me dites, ça l'habitue. Ouais, peut-être. C'est de toute façon une grande violence, même s'il y a eu des séjours avant. Parce que la violence, c'est de perdre son appartement, de perdre sa maison, de perdre ses affaires, de perdre son mode de vie. C'est une énorme perte. Hein. Les familles vont vendre, quand ils sont propriétaires, vont vendre les logements ou les rendre parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Enfin, c'est quand même une coupure. Je ne suis pas sûre qu'on puisse s'habituer à ce type de coupure. Hein. Je ne crois pas. Hein. Enfin, j'ai pas vu ça. Alors, à Saint-Denis, on avait ce qu'on appelait les foyers logements, où des gens décidaient d'aller quand ils étaient un peu plus vieux, quand ils partaient à la retraite. Alors, c'était des gens qui habitaient avant HLM, qui avaient peut-être des appartements un peu plus grands parce qu'ils avaient plein d'enfants. Et puis, quand ils étaient plus vieux, ils allaient dans ces foyers logements qui étaient des petits appartements, mais avec des lieux collectifs. Et ça, les gens y allaient de façon spontanée. Maintenant, ces foyers logements ont plein de places parce qu'en fait, personne ne veut y aller. Plus personne ne fait ça.
Pourquoi ?
Je pense que c'est une culture ambiante hein, qui est de moins d'envie du collectif, peut-être. Je n'aurais pas d'explication, mais je sais qu'il y a des places dans ces foyers logements.
Et ces foyers logements sont plus chers ? Comment expliquer ça ? Parce que...
Non, c'est pas plus cher. Non, ça ressemblait à des... C'est plutôt style HLM que... Non, c'était pas une question de coût. Non. Mais les gens préfèrent rester chez eux.
Vous avez parlé hier d'un système très rentable, ça on commençait à en parler, les EHPAD, et qui serait un placement paradisiaque pour une clientèle captive. Donc là, les mots sont forts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ben c'est vrai. Moi, j'avais tapé, je sais plus, sur EHPAD et rentabilité ou financement. Voilà, je voulais travailler sur le financement des EHPAD. Et tout de suite, ce qui m'est sorti, c'est la rentabilité des actions. Et que acheter un lit d'EHPAD, ça rapporte à environ 4% de façon certaine. Parce qu'on est sûr d'avoir des gens qui vont y aller. Donc, la silver economy est florissante. Et puis, comme la population vieillit, c'est évidemment encore plus florissante. Donc, c'est vraiment un système capitalistique très, très intense. Et les gens sont obligés d'y aller. Donc, en plus, c'est pas comme si vous faites un hôtel où peut-être que, il va plus y avoir de neige et l'hôtel va être vide. Mais là, non, les pads, il y aura toujours des vieux. Donc, tout va bien, quoi.
Et un élément aussi, vous nous avez expliqué, mais j'aimerais bien avoir des précisions, que quand les personnes sont jeunes et malades, leurs frais de santé sont pris en compte. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on devient âgé ?
Eh bien, si vous êtes jeune, 50 jusqu'à 60 ans, et que vous avez une maladie grave, comme, je sais pas, un cancer, une maladie neurologique, Vous êtes pris en charge à l'hôpital, bien sûr. Si vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que vous êtes trop seul, parce que vous êtes malade, parce que vous n'avez pas de logement, vous êtes admis dans ce qu'on appelle un soin de suite, qui est un autre établissement hospitalier, mais qui permet de garder les gens 3 mois, éventuellement renouvelables. Éventuellement, on essaie de faire des retours à domicile, mais s'il n'y a pas de domicile, vous resterez dans ce soin de suite. Donc ça, c'est pris en charge 100% par la Sécurité sociale. Si vous êtes âgé, vous n'allez pas en soin de suite, on vous dit d'aller en EHPAD. Et là, vous payez toute la part d'hébergement. Donc, d'une certaine façon, malade jeune, vous êtes pris en charge gratuitement tout le temps, et malade âgé, non. Et alors après, on parle beaucoup du tournant ambulatoire pour traiter les gens à la maison, mais c'est pareil, il y a tout un volet financier dans l'affaire, parce que à la maison, vous payez votre nourriture. Alors, je sais bien qu'il y a le forfait journalier, mais ça suffit pas. Il y a aussi tout ce qui est blanchisserie, tout ce qui est linge, tout ce qui est hors sécurité sociale, parce qu'il y a pas mal de petits soins qui sont hors sécu, qui sont pas forcément payés remboursés par la sécu. Et donc, en fait, le coût financier pour les familles est supérieur quand quelqu'un est à l'hôpital. Ça, c'est certain.
Il y avait une phrase, peut-être c'était Hannah Arendt, sur le fait d'être... Alors, qu'est-ce que c'était? Dépossédé de son moi?
Oui, Hannah Arendt dit bien que la désolation, c'est le moment où on est... aussi, parce qu'on est dépossédé de tout espace public, dépossédé aussi de son propre moi. Et ça, c'est vraiment ce que fait le collectif. C'est-à-dire que ce collectif de ségrégation, de concentration, c'est de déposséder chacun de son individualité parce qu'il ne peut pas justement s'ouvrir sur un sujet politique, quoi. Les personnes âgées sont plus des sujets politiques, comme les handicapés, comme les précaires, comme les gens en situation irrégulière. Et c'est tout un effort pour redevenir un sujet politique alors qu'on ne leur donne plus la place de sujet politique.
Qui commencerait par être en capacité de dire ce qui ne va pas dans cette micro-société.
De dire ce qu'ils veulent, et puis que ça puisse se faire, parce qu'ils le disent bien, par exemple, qu'ils veulent rentrer chez eux, mais ça se fait pas. Ou ils, par exemple, certains disent qu'ils veulent pas aller à l'hôpital, ils font ce qu'on appelle des directives anticipées, mais les directives anticipées en cas d'urgence, ça passe pas forcément, et on n'a pas encore fait beaucoup d'études là-dessus, mais elles sont assez peu respectées sur cette histoire d'aller à l'hôpital ou pas à l'hôpital. Parce que, mais il faut comprendre aussi les soignants. Il n'y a pas d'infirmière dans l'EHPAD. Le malade va mal, elle appelle le SAMU. Le SAMU, de toute façon, il n'a absolument pas le temps de venir. Les SAMU ne viennent plus dans les EHPAD. Ils envoient une ambulance pour emmener à l'hôpital. Il n'y a pas de médecin qui vient... Enfin, chez nous, dans Seine-Saint-Denis, il n'y a aucun médecin qui vient dans les EHPAD en urgence. Et donc, s'il y a urgence, on envoie une ambulance qui emmène à l'hôpital. Donc, ils ont beau dire qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital, il faut quand même... C'est pas parce qu'on ne veut pas aller à l'hôpital qu'on ne veut pas être soigné non plus. On peut avoir, même quand on meurt, on a besoin qu'il y ait un médecin qui soit là et qui vous dise que c'est bon, qu'il n'y a rien à faire, que ça va bien se passer, etc. Et les familles ont besoin qu'il y ait un médecin. Il n'y a plus aucun médecin qui passe. Et les médecins généralistes, c'est pareil, ils n'ont pas du tout envie d'aller dans les EHPAD. Ils y vont une fois par semaine, ils passent toutes les cartes vertes là pour récupérer les consultations. Certains font ça. Et bon, la plupart n'examinent pas les malades. Nous, on était l'équipe mobile, on était les seuls à examiner les malades, quasiment. Donc forcément, s'il y a un gros problème, il faut bien qu'ils soient quand même examinés. Ça ne peut se faire qu'à l'hôpital, on les emmène à l'hôpital. Et donc, tout ce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas à l'hôpital, ça ne sert à rien. Et comme il y a de moins en moins de médecins, ça ne va pas s'arranger. Et les médecins ne vont pas privilégier les passages en EHPAD. Ils privilégient les consultations au cabinet, bien sûr. Il n'y a plus de visite à domicile. Mais en Bourgogne, c'est pareil, il n'y a plus de visite à domicile. Il y avait une EHPAD où il n'y avait pas de médecin du tout, qui passe. Aucun médecin, même pas de coordinateur, rien. C'était des infirmières qui géraient tout et qui nous appelaient, nous, l'équipe mobile, quand il y avait vraiment un pépin, quoi. Donc forcément, c'est l'hospitalisation. Donc vous dites, pour être sujet politique, faudrait pouvoir l'être, quoi. Ce qui n'est pas le cas quand on est personne âgée, quand on est personne dépendante, et qu'on est mis dans ces situations-là où on ne décide même pas d'ouvrir la fenêtre. Hein, si on a un EHPAD en étage, les fenêtres sont fermées parce qu'on risque de sauter, par exemple, comme à l'hôpital. C'est-à-dire que ce sont tous des lieux où on n'a même pas le droit d'ouvrir sa fenêtre, quoi. Moi, je trouve que c'est terrifiant. Enfin.
Alors, en fin d'atelier hier, vous aviez posé la question, qu'est-ce qu'on fait si certaines ont des idées
Alors, à la fin de l'atelier, il y a une personne qui a témoigné sur un habitat participatif. C'est-à-dire, c'est des habitats intergénérationnels avec une certaine forme de vie collective. Je sais qu'il y a des habitats intergénérationnels où, par exemple, on invite les personnes âgées à loger des étudiants pour justement qu'elles puissent rester à la maison avec une présence, etc. Moi, je suis en ville à Paris et je me dis que tous les sans-papiers, les exilés qui arrivent pourraient très bien être logés aussi dans les EHPAD, pourraient être aussi logés chez les personnes âgées avec des échanges de services qui permettraient de vivre un peu plus en collectif. Mais je crois que fondamentalement, c'est l'ensemble de nos modes d'habitation qu'il faudrait qu'on change. Parce que c'est sûr que une personne âgée, par exemple, on n'en a pas parlé, mais souvent, elle ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison. Et quelquefois, les familles, elles les mettent en EHPAD parce qu'elles n'arrivent pas à imposer qu'il y ait une présence à la maison. Parce que la personne veut qu'il n'y ait personne qui rentre. Elle n'ouvre pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas qu'on lui fasse son ménage, alors même qu'elle n'est plus capable de le faire, etc. Donc, mais ça s'apprend tôt. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où, en effet, on est très replié et on a des maisons fermées, on n'est pas ouvert sur les autres. Je pense que progressivement, ça peut changer. Quand je vois les jeunes en coloc, je me dis, ça va changer. Notre mode de vie va changer. Mais sinon, alors il y a des expériences avec des plus petites structures, des appartements où il y a plusieurs personnes âgées et avec donc des soins qui soient moins à la chaîne, et où il y a peut-être plus aussi quelque chose qui ressemblerait un peu à une société, même si c'est monogénérationnel. Mais je pense qu'il faut multiplier ces expériences-là et puis changer globalement notre mode d'habitat, quoi.
Ça fait des années que je vois passer des projets de mettre une maison de retraite à côté d'une crèche. Est-ce que ça se fait finalement, ça ?
Très, très peu, parce qu'il y a des problèmes de... Alors, c'est tout, notre monde est rempli de sécurité, donc il y a tous les problèmes de sécurité. Les crèches, c'est plein de virus. Donc, forcément, les personnes âgées vont les attraper, ce qui est vrai, hein. Donc ça, je pense que ça se fait pas. Je crois pas que ça se fait. À côté d'école, il y a certains endroits où ça se fait, mais c'est très volontariste. C'est pas quelque chose de... Comment dire ? Les personnes âgées, on veut pas les voir quand même. Et puis, vous savez, une personne âgée, quand c'est votre grand-père, votre grand-mère, vous l'aimez bien, vous supportez, mais les personnes âgées deviennent quand même un peu insupportables. Et beaucoup de personnes âgées, c'est très insupportable, je vous assure. Hein. C'est d'ailleurs dans les établissements, on fait des tas de formations à la bientraitance, comme si la maltraitance était normale, quoi. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que d'être avec plein de personnes âgées comme ça, ça invite à la maltraitance. C'est pas si facile que ça, quoi. Alors, les mettre à côté des crèches, mais d'ailleurs, les crèches aussi, maintenant, font des formations à bientraitance, parce que je pense aussi que dans les crèches, c'est pas forcément facile c'est pas facile de s'occuper de tas d'objets de soins qui sont pas forcément plaisants et qui sont tous ensemble, etc. Je crois que c'est, on fait une société qui est difficile, quoi. Et j'espère que ça va changer.
Merci beaucoup, Isabelle Marin, pour ce grand tour. Donc, c'était Sarah, envoyée spéciale de Radio Saint-Ferréol à Dieulefi pour les rencontres Concertina, aux côtés des radios associatives Radio La, Radio D'ici et Radio BLV. Vous êtes sur Radio La, sur le 106.6 à Dieulefi, sur Radio D'ici dans le bassin annonéen et sur l'application Radio La partout ailleurs, dans le monde. Bonne suite de rencontres et à bientôt.
Ici l'ombre, la radio de Concertina.